Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Les armes parlent à nouveau depuis tôt ce matin dans le massif au Nord Kivu. La FCM-23 s'affronte au Wazalendo de l'APCLC sur au moins 4 axes. On signale déjà des mouvements importants des populations. Des ossements humains découverts hier à Matemboué dans l'Ituri. Il s'agit des restes de 5 paysans qui avaient été pris en otage par les rebelles des EDF, rapporte l'ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH. Et puis, dans ce journal, nous ferons le voyage vers Rome pour voir l'ambiance qui règne à la basilique Saint-Pierre où est exposée la dépouille du pape François. Nous en parlons avec notre invité, le père Jean-Pierre Bojoko, prêtre de la Compagnie de Jésus et ancien responsable de la section africaine francophone de Radio Vatican à Rome. Madame, Messieurs, bonjour. Avant de développer ces titres, notez tout d'abord que la ministre d'État en charge des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue du Rwanda, Olivier Ndungirehe, signent ce vendredi 25 avril à 19h de Kinshasa une déclaration des principes en vue du rétablissement de la paix dans l'Est congolais, déstabilisé depuis plus de 3 décennies. C'est ce qu'indique l'agence congolaise de presse sur son compte X. Le gouvernement congolais et les experts des Nations Unies accusent régulièrement le Rwanda de pillage des ressources naturelles congolaises. Selon plusieurs sources, ces minerais pillés sont revendus aux firmes asiatiques et occidentales, précise l'agence congolaise de presse ACP. Pendant ce temps, des nouveaux affrontements sont signalés depuis tôt ce matin dans le territoire de Masisi, au Nord Kivu. Les rebelles du M23 s'affrontent aux combattants Wazalendo de l'APCLC sur au moins 4 axes dans le secteur Osobanyungu. Les combats en cours provoquent encore une fois des mouvements des populations importants dans cette région, disent les sources locales. Dans le territoire de Walikale, des vives tensions sont aussi signalées sur l'axe Nyabiondo-Mutongo. Reportage.
Selon les sources à Nyabiondo Centre, les rebelles auraient lancé vers 5 heures du matin simultanément leurs attaques sur les positions de Wazalendo de l'APCLS dans plusieurs axes du territoire de Masisi. Les hostilités ont démarré à Kinyumba, à environ 5 km de Nyabiondo Centre, dans les pâturages de Burubi, Kibanda, Kikomo et Kasopo. D'autres sources rapportent que ce sont les combattants de l'APCLS qui auraient ouvert en premier le feu sur les positions rebelles.
Les habitants de Nyabiondo, pris de panique à leur réveil, parlent des tirs à l'arme lourde et des bombes qui retentissent.
Ces affrontements ont encore une fois jeté sur le chemin d'exil des centaines de ménages de cette région, selon les sources à Nyabiondo. La population a trouvé refuge à la base des MSF et au centre hospitalier de Nyabiondo pour se protéger. Les mêmes sources précisent que c'est depuis jeudi que les rebelles du M23 étaient venus de Masisi Centre et ont renforcé leur présence à Nyabiondo et à Kibati dans les territoires du Walikale, où ils ont installé leur position avancée après leur retrait de Walikale. Selon un notable local, leur objectif était de conquérir tout Masisi et chercher à tout prix à occuper à nouveau le chef-lieu du territoire de Walikale. Cette source ajoute que c'est depuis environ 5 jours que des attaques sporadiques sont menées dans la région de Masisi. Par ailleurs, on signale également des tensions depuis hier et ce matin sur l'axe Mutongo dans les territoires de Walikale. Les rebelles en patrouille se seraient accrochés brièvement aux combattants APCLS.
Voilà, c'était le reportage de Grace Amzati. Pendant ce temps, dans la ville d'Uvira au sud Kivu est secouée de nouveau ce vendredi comme hier par des tirs nourris entre les FARDC et les Wazalendo. Au même moment, d'autres combats opposent les FARDC aux rebelles de l'FCM-23 dans la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu. Ces derniers nourrissent l'ambition d'occuper cette agglomération tenue par les forces loyalistes, renseignent nos sources présentes à Kaziba. Le point avec Jean Gando.
Des crépitements de balles retentissent encore ce matin dans les collines surplombant la ville d'Uvira. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud appelle la population au calme. Le lieutenant Marc Elongo précise que les combats surviennent à la suite du redéploiement des FRDC à Katongo vers le haut plateau de Fizi. Les Wazalendo mécontents de ce mouvement des FRDC s'illustrent par des tirs et soupçonnent cette unité de l'armée de travailler pour le compte des rebelles dans le haut plateau de Fizi. Pendant ce temps, ça tire aussi à Kaziba dans le territoire de Walungu. Là, les rebelles tente de déloger les FRDC à partir de la localité de Mouchenyi. À Kaziba Centre, les activités sont à l'arrêt aux grandes dames de la population locale.
Par ailleurs, le mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha, salue vivement les efforts en cours pour la recherche de la paix en RDC, y compris ceux de Doha au Qatar. Toutefois, Lucha met en garde contre tout accord qui consacrerait l'impunité au mépris des victimes des atrocités causées par la guerre. On écoute l'un de ses membres au Sud Kivu, Moïse Angui.
Nous saluons les bons offices issus de la médiation menée par l'émir du Qatar en vue de la restauration de l'autorité de l'État et le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, très précisément la partie est de la République démocratique du Congo sous occupation des rebelles. Notre mouvement appelle le gouvernement congolais à faire preuve de la retenue et la prudence. Nous osons croire que le gouvernement ne va pas reprendre les mêmes erreurs du passé en octroyant des récompenses ou des privilèges exorbitants aux criminels qui ont massacré nos populations et qui ont pillé des ressources naturelles de la République démocratique du Congo immense. Nous osons croire que la démarche va être sereine et bénéfique au peuple congolais.
Je vous le disais en titre, en Ituri, des ossements humains ont été découverts jeudi à Matemwe, un village situé à 2 km du centre de Kanyuta, dans le territoire de Mambasa. Selon l'ONG Convention pour le respect des droits humains, CRDH, il s'agit des restes de 5 personnes, des paysans, qui se rendaient dans leurs champs et qui avaient été pris en otage par les rebelles des EDF. Le récit de Martial Kizabiamongo.
Dans son rapport de monitoring publié ce vendredi matin, la CRDH, Convention pour le respect des droits humains, indique que ce sont des cultivateurs qui se rendaient dans leurs champs qui ont découvert des traces d'ossements humains sur leur chemin. C'est après avoir creusé l'endroit qu'ils ont fait cette découverte macabre de plusieurs squelettes humains. La même source qui cite des témoins affirme qu'il s'agit de 5 personnes qui ont été prises en otage par des ADF en octobre 2024 lors de leur passage dans la région de Kanyuta. Ces victimes ont été identifiées grâce aux habits qu'elles portaient les jours de leur enlèvement. En février 2024, 20 autres personnes avaient été tuées et enterrées dans une fosse commune par ces mêmes ADF au village de Makilima, rapporte la CRDH, ce qui portait à 350 le nombre de civils fauchés par ces rebelles en 2024 dans la chefferie de Babila Babombi, ajoute la même source. Cette structure plaide pour l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs de ces actes odieux répondent devant la justice. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, en prélude de l'ouverture de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais qui aura lieu au mois d'août prochain, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique se dote d'un portail numérique. Sa présentation officielle a été faite jeudi au Salon Bleu de l'Hôtel du Gouvernement à Kinshasa. Son lien est www.m-rsit.agismac.cd. À l'occasion, le ministre Gilbert Kabanda a annoncé qu'au moins 66 prototypes des scientifiques, chercheurs et inventeurs congolais des précédents forums ont reçu le quitus du chef de l'État et celui du chef du gouvernement pour son implémentation dans le programme national. D'autres détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Ce portail numérique qui contient toutes les informations utiles et nécessaires du ministère permettra tout d'abord aux chercheurs et innovateurs à s'inscrire et à soumettre leurs projets. Il s'agit en effet d'une interface qui permet la traçabilité des données scientifiques en soumission. Ce portail permettra également à toutes les couches de la population d'avoir un aperçu sur les résultats des premiers forums. Ainsi l'a expliqué le professeur Aimé Ekwakile lors de cette présentation. En effet, qu'est-ce qui est fait de toutes les inventions qui ont été présentées dans les précédents forums? En réponse, le ministre Gilbert Kabanda a fait savoir que loin de penser à l'inertie, il y a plutôt une progression importante.
Je vous rassure, le président de la République et la première ministre sont mobilisés pour implémenter, autant que faire se peut, les 66 premiers prototypes. Bientôt, nous allons injecter les prototypes de l'année passée. Et donc, nous aurons une centaine de prototypes. Et je peux vous informer que au moins 6 prototypes ont été retenus dans le financement chinois.
Notons que d'autres prototypes des inventeurs congolais sont attendus à cette 3e édition du forum dont les préparatifs sont lancés en ces jours.
Kinshasa Kiamona. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa débute au mois de juin prochain, piloté par Carousel Finance, une société anglo-suisse. Le projet devra coûter 50 milliards de dollars et comprendra une ville extra-moderne érigée à 45 kilomètres de Kinshasa dans le but de désengorger la capitale congolaise qui pourrait devenir surpeuplée d'ici 2030. Pour l'instant, plus de 18 milliards ont déjà été mobilisés. Ben Chokuta nous en dit plus.
Ce projet vise à créer une extension moderne de la ville, capable d'accueillir jusqu'à 50 millions de personnes. Avec un coût estimé à 50 milliards de dollars, cette nouvelle cité sera construite sur une superficie de 43 000 hectares dans la commune de Maluku, à 45 kilomètres de Kinshasa. Le projet prévu sur une période de 8 ans ne sera pas financé par l'État congolais, mais par de partenariats publics-privés pilotés par le promoteur financier anglo-suisse Carousel Finance. À ce jour, plus de 18 milliards de dollars ont déjà été réunis, comme l'explique le président fondateur de Carousel Finance, Jaffa Ilali.
Il y a déjà beaucoup plus de 12 milliards qui ont été discutés pour être mobilisés juste pour la cité industrielle.
Pour réussir ce projet, l'État congolais a voulu que le marché soit ouvert à tout le pays.
On a commencé par l'Europe, on est très impliqué au Moyen-Orient, on va organiser un gros événement à Washington et je pense que le Congo veut garder sa politique d'ouverture et donc souhaite diversifier les partenaires. Techniquement parlant, je pense que les Chinois peuvent servir des intérêts, des besoins en financement de cette nouvelle ville.
Kinshasa Kiamo comprendra des immeubles résidentiels, un quartier financier, des hôpitaux, une université et une cité industrielle avec 1500 usines. Le chantier est prévu pour débuter en juin prochain et devrait générer environ 30 000 emplois dès son lancement.
Pendant ce temps, toujours dans la ville de Kinshasa, mais cette fois-ci dans la partie qu'on peut considérer comme l'ancienne, circuler est devenu un casse-tête. Les embouteillages perturbent les agendas de plusieurs personnes. C'est le cas de ce parent d'un élève à l'école belge, habitant Binzamétéo. Ce dernier, qui a quitté sa maison depuis 5h du matin, mais jusqu'aux environs de 9h30, il traînait encore sur la route sans même parcourir la moitié de son chemin. On écoute son témoignage dans ses propos recueillis par Pele Kipela Mondo.
Je ne sais pas comment vraiment expliquer ce qui se passe aujourd'hui. D'habitude, quand je quitte la maison, 5h30. J'arrive, je crois bien, 30, 40 minutes en tout cas, je suis déjà à l'école belge. Aujourd'hui, j'ai quitté la maison 5h40. Jusqu'à présent, je suis qu'au niveau de l'école Révérend Kim. Donc ça fait à peu près, vous faites la différence, hein? Ça fait à peu près déjà presque 4h30. Et je suis toujours en cours de route, je ne suis pas encore arrivé à l'école. C'est vraiment décevant et puis décourageant de dire que nous, voilà, nous vivons dans un pays où il y a l'organisation, là où il y a discipline routière, il n'y en a pas. Sincèrement, en tout cas, c'est vraiment écœurant. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais arriver. Et l'enfant m'a dit, parce que deux cours déjà qu'il a raté, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver, ça m'étonne.
Actualité internationale.
Les conditions de vie des migrants expulsés d'Algérie vers le Niger se sont détériorées de manière alarmante avec des milliers de personnes laissées sans ressources dans des zones désertiques. En avril 2025, plus de 1800 migrants ont été expulsés par les autorités algériennes dans une opération massive, confirmant ainsi l'aggravation de la crise migratoire en Afrique du Nord. Selon Alarm Faune Sahara, un groupe de défense des droits des migrants basé au Niger qui livre l'information, cette vague d'expulsion a contribué a porté à plus de 4000 le nombre total des migrants expulsés vers Assamaka au mois d'avril. Ce chiffre ne tient pas compte de ceux qui pourraient tenter de retourner vers le nord de l'Algérie.
L'invité.
Le pape François sera inhumé ce samedi dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Entre-temps, sa dépouille est exposée dans la basilique Saint-Pierre de Rome, où plusieurs personnes sont en train de lui rendre les derniers hommages. Quelle est l'ambiance qui règne sur place? Pour y répondre, nous recevons en invité le père Jean-Pierre Bojoko, prêtre de la Compagnie de Jésus, journaliste, expert en politique et ancien responsable de la section africaine francophone de Radio Vatican à Rome. En Italie, il s'entretient avec Alain.
Père Jean-Pierre Bojoko, bonjour. Vous êtes sur place à Rome où plusieurs personnes catholiques et non catholiques viennent rendre les derniers hommages au pape François. Pouvez-vous nous décrire cette ambiance?
Alors, l'ambiance ici à Rome, c'est que la ville est remplie de monde. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de pèlerins et de touristes qui sont vers la place Saint-Pierre pour entrer dans la basilique. Il y a des files infinies qui continuent jusqu'à tard la nuit pour rendre les derniers hommages au pape François. que ce soit les fidèles catholiques et aussi les non-catholiques, que ce soit des autorités des divers pays qui arrivent.
Évidemment, il doit y avoir également un dispositif sécuritaire très relevé.
Et évidemment, on a élevé les dispositifs de sécurité à haut niveau, puisqu'il y a beaucoup de chefs d'État qui arrivent déjà à partir d'aujourd'hui pour assister aux funérailles du pape ce samedi. On voit des militaires, des policiers, de ce qu'on appelle aussi des carabinières, qu'on peut comparer un peu aux gendarmes pour d'autres pays. Et donc les dispositifs de sécurité, on les voit et on les sent, des hélicoptères qui circulent, et puis des policiers aussi qui sont dans des endroits stratégiques de la ville de Rome.
Père Jean-Pierre Bodjoko, vous avez couvert les obsèques du pape Benoît XVI et cette fois-ci vous êtes sur place pour ce qui concerne le pape François. Quelle est la particularité des obsèques du pape François selon vous?
La particularité d'abord, c'est que le pape François a été un pape spécial, disons comme les gens l'appellent, le pape des pauvres, le pape des démunis. Et ce qui fait la différence, c'est qu'on voit beaucoup hein, de gens de petite classe qui viennent rendre hommage au pape, à part évidemment les fidèles habituels, et ce sont les plus démunis qui se sentent orphelins cette fois-ci. Et puis l'engouement, c'est toujours un peu pareil comme c'était pour les autres papes, notamment le pape Jean-Paul II. Mais là, on sent aussi une grande différence, plutôt des pauvres qui disent « nous avons perdu notre papa ».
Le pape François avait, dans son testament, demandé des funérailles simples. Vous qui êtes sur place, est-ce que vous le voyez? Comment cela se reflète-t-il?
Alors, cela se reflète d'abord même par la façon d'exposer son corps. Les autres papes, on voit le corps dans la basilique, disons, pas encore dans le cercueil. Mais même si pour Jean-Paul II, on avait aussi fait la même chose, mais pour le pape François, on sent la simplicité. Par exemple, il a demandé dans son testament qu'il ne soit pas mis sous la forme habituelle de trois cercueils. Il y aura seulement deux cercueils dans lesquels se trouve maintenant sa dépouille. Ça se sent déjà. Et puis, de l'autre côté, il a demandé de ne pas être enterré dans la basilique Saint-Pierre, mais plutôt dans la basilique Marie-Majeure, là où il affectionnait d'aller régulièrement prier la Vierge Marie.
Vous avez évoqué un monde fou qui est en ce moment à Rome. Est-ce qu'il y a des délégations congolaises qui sont sur place? Est-ce que vous avez rencontré des Congolais?
Alors, il y a des délégations congolaises, évidemment, puisqu'il y a d'abord des Congolais qui vivent à Rome. Mais ce n'est pas discret. On sait qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui arrivent. Et je crois que même les chefs de l'État de la République démocratique du Congo arrivent à Rome aujourd'hui, comme beaucoup d'autres chefs d'État qui arrivent aujourd'hui, vendredi 25 avril à Rome. Et je crois qu'il y a déjà certains Congolais qui sont arrivés à Rome pour assister aux funérailles du pape.
Alors pour terminer, Père Jean-Pierre Bodjoko, en un mot, c'est quoi qu'on retient comme héritage du pape François?
L'héritage du pape, c'est un pape qui a tourner son pontificat dans la grande simplicité, que ce soit dans sa pastorale, que ce soit dans ses discours. En tout cas, il était attentif aux pauvres et à la périphérie. Ça signifie les gens qu'on oublie souvent dans la vie ordinaire. Et on l'a senti dans sa façon de faire, on l'a vu manger avec les pauvres, on l'a vu visiter ce qu'on peut appeler des petits pays par rapport à des grands pays. Un pape avec grande humilité, un pape pour les faibles, un pape des pauvres.
Père Jean-Pierre Bodjoko, je vous remercie.
Le Père Jean-Pierre Bodjoko est prêtre de la Compagnie de Jésus, journaliste, expert en politique et ancien responsable de la section africaine francophone de Radio Vatican à Rome en Italie. Il s'entretenait avec Alain Rong-Mouchinj. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision d'Alain Rong-Mouchinj, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.